Ouais, donc on a un vaste programme pour découvrir cette personne qui est assez mystérieuse et qui va nous faire, je pense, basculer vers autre chose pour avancer vers d'autres horizons sur la suite. Cette personne-là, c'est l'Esprit Saint et c'est peut-être la personne divine avec laquelle on a le plus de mal, en fait, hein, parce que c'est quand même la plus insaisissable. Autant un Père, on voit un peu ce que ça peut être, un Fils, on voit à peu près, un Esprit Saint, bon, c'est peut-être plus aléatoire. Alors, comment est-ce qu'on connaît l'Esprit Saint et qu'est-ce qu'en disent la Bible et les chrétiens? Voilà, c'est un peu le programme de notre soirée, comme Katia l'a dit ce soir. Et bien, d'abord, l'Esprit Saint, on peut en le nommer de trois façons différentes, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Et vous allez être des passages de la Bible en tête où il est fait mention de l'Esprit Saint. C'est-à-dire des passages du Nouveau Testament en particulier. Vous avez peut-être, du coup, spontanément, qui vient en tête le baptême de Jésus, au moment où la voix du Père se fait entendre, et l'Esprit Saint qui descend comme une colombe. Il y a aussi l'annonce à Marie, évidemment, où l'ange Gabriel annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu par l'intervention du Saint-Esprit. Luc 1, 35, pour ceux qui veulent des références. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu, etc. Et ce petit passage de Luc, en fait, nous dit déjà deux choses. De l'Esprit Saint. Parce que cet Esprit Saint, il est décrit comme quelque chose en action, par l'action qu'il fait en fait, c'est lui qui va faire que Marie conçoit le Fils de Dieu, et puis il est décrit aussi par une image. Il y a donc un aspect très tangible, j'oserais dire, tangible par l'action, et en même temps, il faut quand même une image pour en parler, donc on a un côté un peu approximatif où on approche comme on peut. On peut noter que dans ce passage-là de l'Annonciation, en fait, l'image qui est utilisée, elle n'est pas anodine. Elle est même bien connue puisque cette nuée, cette ombre, en fait, elle fait penser à tous les moments où la nuée a recouvert les lieux où Dieu était présent. On peut penser au Sinaï, qui est plein d'une nuée lorsque Moïse reçoit la table de la loi. L'Arche d'Alliance, lorsqu'elle est mise dans l'attente de la rencontre, lors de la marche au désert, il y a la nuée qui vient se poser là et qui les guide d'étape en étape. On peut penser au temple de Jérusalem lors de sa consécration, etc., etc. Et donc, en fait, ce rapprochement nous indique simplement une chose, c'est que, en fait, l'Esprit Saint n'est peut-être pas une invention du Nouveau Testament. C'est peut-être pas un truc de chrétien, en fait, l'Esprit Saint. Mais peut-être qu'il se cachait déjà, si vous me passez l'expression, dans l'Ancien Testament sous forme d'image. Alors, je vous propose qu'on relise justement un petit peu à très 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 grand trait l'Ancien Testament pour chercher les traces de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en guettant ces images qui parlent de lui. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait. Hein. Vous ouvrez la première page de la Bible et paf, on tombe sur la Genèse où il est question du souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Voilà. Attendu, deux versets avant qu'on nous en parle. Grand suspense. Or, c'est ce souffle qui, quelques versets après, est insufflé dans l'homme qui a été modelé dans la glaise, vous le savez, pour faire de lui un vivant. Ou encore, c'est ce même souffle qu'on retrouve dans le prophète Ézéchiel, peut-être vous avez en tête cette prophétie assez impressionnante où il y a un champ d'os et il va prophétiser dessus et puis ces os vont reprendre chair et vont reprendre vie grâce au souffle de vie. Le Seigneur me dit alors, Ézéchiel 37, 9, adresse une prophétie à l'Esprit, prophétise, fils d'homme, dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ses morts et qu'ils vivent. L'Esprit Saint, vous voyez donc, c'est pas juste un courant d'air voilà, qui passe, c'est bien, on est bien en présence d'une image de l'Esprit de vie que Dieu donne au monde. L'Esprit dont Dieu se sert pour donner la vie. Première image, donc voilà, ce souffle de vie. La deuxième, c'est celle de la nuée, dont on a déjà un petit peu parlé. Elle accompagne de nombreuses manifestations de la présence de Dieu. Vous avez peut-être là aussi beaucoup des passages qui vous reviennent, mais on peut penser à au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, avec Moïse, c'est une colonne de nuée qui les précède. Et là encore, de même que le souffle, pour désigner l'esprit, c'est pas juste un courant d'air, là cette nuée elle est un peu spéciale, puisque elle est décrite comme ténébreuse le jour, une colonne sombre en fait la journée, et par contre la nuit, c'est une colonne lumineuse. Donc elle évolue selon les moments, c'est pas un simple nuage, elle a des caractéristiques vraiment tout à fait spécifiques. Et c'est cette colonne qui va en fait s'interposer. Vous savez, quand Hébreux arrivent dans la mer, devant la mer Rouge, là ils sont coincés, et c'est la colonne qui va se passer à l'arrière, on le réentendra la semaine prochaine en fait, hein, à l'arrière pour empêcher les deux camps de se rencontrer. C'est elle, comme je vous le disais, qu'on retrouvera lorsque Moïse construira la tente de la rencontre, qui est ce sanctuaire mobile qui est dressé à chaque étape de la marche dans le désert et qui accueille l'arche d'alliance. Et en particulier quand la tente est inaugurée et quand Dieu vient parler à Moïse, la nuée qui recouvre la tente manifeste la présence de Dieu. Donc là, vous pouvez replonger dans le livre de l'Exode si vous voulez revoir tous ces passages de façon plus précise. Cette nuée, elle ne va pas faire qu'accompagner les Hébreux dans le désert, puisqu'on la retrouve aussi lorsque Salomon inaugure le temple. Lorsque Salomon inaugure le temple, en fait, on voit d'un coup la nuée qui emplit la demeure, au point que les prêtres ne peuvent plus rendre leur service dans le temple, en fait. Voilà, Dieu est là présent. Et au contraire, après les nombreux péchés d'Israël, au moment où il va être déporté, le signe avant-coureur de cela, c'est dans le livre d'Ézéchiel, lorsque la nuée va s'élever et par sortir du temple et quitter Jérusalem. Voilà. Il y a d'autres images sur lesquelles je ne vais pas m'étendre et qui ponctuent tout l'Ancien Testament. Par exemple, on peut penser à l'eau, celle qui coule du côté du temple dans la vision d'Ézéchiel, celle qui purifie les cœurs. On trouve aussi le feu qui consume le sacrifice d'Élie au mont Horeb, l'huile qui sacre les prêtres, les rois, les empereurs. On peut penser à Isaïe au chapitre 61, verset 1. Ou encore, plus original, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui me l'a pointé du doigt, si j'ose dire, justement, c'est que l'Esprit, c'est aussi le doigt de Dieu. On trouve ça, si ça vous intéresse d'aller voir ça de vos propres yeux, en Exode 31, 18 et en Luc 11, 20. Et du coup, justement, ces deux références montrent que le Nouveau Testament va se réapproprier toutes ces images de l'Esprit Saint, et il va les compléter, en fait. Pour être tout à fait complet, il va ajouter deux images. La colombe, dont on parlait au niveau du baptême, là, et puis le sceau. Alors le sceau, entendu comme chose qui scelle. D'accord. Pour ça, la référence est Jean 6, 27. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur cette présence de l'Esprit Saint dans la Bible, mais voilà, ce parcours nous... Je l'ai fait simplement pour montrer que l'Esprit Saint n'est pas une pure invention des chrétiens. C'est pas juste Jésus qui un jour débarque et dit « En fait, l'Esprit Saint existe et je vous en parle. » quoi. L'Esprit Saint se découvre dans tout l'Ancien Testament et se révèle petit à petit, tout comme on l'avait vu en fait à propos du Père. L'image de Dieu va se révéler petit à petit dans l'Ancien Testament. En fait. Et on n'attend pas Jésus pour découvrir qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de nous, etc. Dieu le Père se découvre dans tout l'Ancien Testament et se redécouvre dans le Nouveau, d'une façon renouvelée par la figure de Jésus. De même, l'Esprit Saint, en fait, se découvrait dans tout l'Ancien Testament et se redécouvre grâce à Jésus dans le Nouveau. Alors, ceci étant dit, maintenant, voilà, quelques caractéristiques. C'est le grand 2, si vous voulez suivre sur vos feuilles. Ces différentes images, qu'est-ce qu'elles nous indiquent ? Eh bien, elle nous indique plusieurs caractéristiques de l'Esprit Saint. La première, c'est que, en fait, on n'a pas d'autre moyen que ces images pour en parler. Ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement mystérieux. Bon, toute la Bible se sert seulement d'images pour parler de l'Esprit Saint. Alors, c'est pas étonnant, du coup, que l'image de la nuée soit peut-être si expressive de ce qu'il est, puisqu'il y a ce côté de mystère, de présence, en fait, hein, qu'on perçoit vraiment, mais assez mystérieuse, assez intangible, etc. Deuxième caractéristique, elle nous indiquait par une autre image dont on se sert et dont on se sert encore dans les sacrements, c'est l'image de l'huile. Parce que vous le savez peut-être, l'huile n'a pas seulement une fonction nutritive, ou alors nutritive entendu au sens large, hein, ceux qui ont des cosmétiques le savent. Appliquée sur le corps, elle peut le fortifier, le tonifier, et vous savez que les athlètes s'enduisaient d'huile pour ça, pas seulement pour glisser et échapper à leur adversaire, mais pour tonifier les muscles, etc. Et en fait, de la même façon que l'huile pénètre dans notre corps au point d'en être parfaitement inséparable et lui transmettre sa force, c'est de la même façon l'Esprit Saint nous rentre en nous et nous fortifie comme une huile qui pénètre, qui imprègne et qui fortifie. Et donc cette image de l'huile, elle indique une proximité en fait très grande de l'Esprit Saint avec nous. La nuée, c'est quelque chose un peu extérieur qui nous recouvre, qui est autre. L'image de lui, elle nous indique cette caractéristique que l'Esprit Saint, il est fait pour faire corps, en fait, avec nous, pour venir en nous. C'est pourquoi la troisième caractéristique, qui est signifiée par l'image du vent, du souffle, vient parachever notre vision de l'Esprit Saint, en lui donnant, pour le coup, là, définitivement, sa dimension intérieure. Non seulement l'Esprit nous fortifie, mais il nous donne la vie, en fait. Et non seulement il vient de l'extérieur, mais en fait, il jaillit aussi de l'intérieur. Il est le cœur même de notre vie, la vie de notre vie, on pourrait dire. Ou, voilà, pour paraphraser, l'Esprit Saint est esprit de vie, et il est la vie de Dieu dans tous les sens du terme, en fait. C'est à la fois la vie que Dieu nous donne, et la vie même de Dieu, l'Esprit Saint. C'est la vie de Dieu dans ces deux sens-là. Il est celui qui fait vivre, et Dieu, et les hommes. Pas mal, ça. Voilà, alors, bon, pourquoi est-ce qu'il demeure si insaisissable, cet Esprit Saint? Ben d'abord parce que Dieu n'a pas révélé davantage de choses sur lui. Hein. Il continue de nous parler en images, pour nous parler de l'Esprit Saint. Et même dans les Actes des Apôtres, où c'est lui le moteur principal de toute la mission, hein, c'est son bouquin à lui, quoi, et ben, en fait, on n'a aucune description précise de ce à quoi il pourrait ressembler. Et puis enfin, Jésus lui-même nous laisse devant quelque chose d'assez mystérieux. Quand il parle avec Nicodème, il dit au chapitre 3, verset 8, chez Saint Jean, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Débrouillez-vous avec ceci. Voilà, l'Esprit Saint, c'est un souffle. C'est pas d'où il vient, c'est pas où il va. Mais par contre, il existe. Bien. Mais, ça, voilà. Ne nous y trompons pas, en fait, c'est pas un oubli ou une volonté de cacher les choses de la part de Dieu ou de la Bible. En fait, c'est dans l'être même de l'Esprit Saint, c'est dans son être le plus propre que d'être mystérieux. Parce que, en fait, sa caractéristique principale à l'Esprit Saint, c'est d'être relation. Et une relation, c'est toujours compliqué, en fait, à décrire. L'Esprit Saint, c'est la relation du Père et du Fils, c'est l'union des deux, c'est ce qu'on redit chaque dimanche dans la conclusion des prières. Vous savez, quand on dit « Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Voilà. » L'Esprit Saint, c'est l'unité. C'est cette relation qui nous rend un. Et donc, en fait, le mystère de l'Esprit Saint, c'est celui de l'amour, de la relation. Et vous savez, donc, comme je disais, combien c'est difficile de saisir la relation entre deux personnes. Pensez, par exemple, à comment est-ce que vous décririez un couple d'amis. Vous pouvez décrire les deux personnes, mais décrire le couple, la relation entre les deux, ben, c'est plus difficile, en fait. À la fois, on sent bien que ça existe, on voit bien des liens, des couples différents, des liens différents, etc. Mais pour en rendre compte, c'est pas évident. Et du coup, en fait, c'est là qu'on peut comprendre que la difficulté à décrire l'Esprit Saint, elle est un peu de cet ordre-là, en fait, puisqu'on va essayer de décrire une relation. Alors, ceci étant dit, pour ne pas vous induire complètement en erreur dans mon topo, je dois un petit peu corriger mon propos, maintenant. Parce que cette image du couple, elle est bien, mais elle a un défaut, c'est que le couple n'est pas une personne au même titre que l'homme et la femme qui le composent. Voilà. Hein, le jour où vous êtes marié, ben, le troisième truc qui est arrivé comme ça pour vous et qui est parti de la maison maintenant. Quoi. C'est un peu différent. Alors que dans la Trinité, en fait, l'Esprit Saint, lui, il est une personne au même titre que les autres. Alors, ce que ça me fascine quand même toujours, c'est que quand même, les couples, quand on en parle quand même souvent comme d'une personne. Hein. On dit, voilà, notre couple est né, notre couple le nourrit, notre couple il grandit, notre couple... Et comme si, il y avait déjà, même dans le couple, quelque chose de l'image de la personne divine qui est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, lui, en fait, voilà, il est encore plus tangible que ça. Il est aussi Dieu, autant Dieu que les autres personnes. Et il n'est pas une simple relation abstraite, quoi, vous voyez. C'est ça que, là-dessus que je voudrais vraiment insister. Ni même, ça pourrait être beaucoup plus à la mode actuellement, une énergie impersonnelle, voilà, qui jaillirait de Dieu, voilà, sans visage, sans personnalité. L'Esprit Saint, c'est une personne, comme le Père, comme le Fils, dotée de son intelligence propre, de sa volonté et de sa personnalité. Mais quand même, voilà, je vais encore creuser cette image du couple, parce que je pense qu'elle permet un dernier approfondissement, au sens où le couple se constitue au moment où deux personnes se donnent totalement l'une à l'autre. Et le résultat de ce don, c'est ça le couple, en fait. On pourrait même dire, voilà, c'est ça, que ce don, c'est le couple. Alors, je vous l'accorde, je m'avance sur un terrain où vous avez probablement une expérience beaucoup plus réelle que moi, donc je vous laisse juger de la pertinence de l'image. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui permet d'approcher ce que peut être l'Esprit Saint et comment lui aussi, du coup, en fait, dans la Trinité, l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu que le Père fait au Fils, que le Fils fait au Père, et c'est pour ça qu'il est l'union des deux. Si je dis autrement, l'Esprit Saint, c'est l'union du Père et du Fils, leur unité, parce que il est leur don commun et réciproque. L'Esprit Saint, c'est le don du Père au Fils, donc il vient de ce don, il vient du Père et du Fils, et en même temps, parce qu'il vient d'eux, c'est lui qui assure l'unité dans la Trinité. Il y a toujours dans la Trinité des relations qui sont réciproques entre les personnes. Ils ne sont pas les uns sans les autres. Bref, pour conclure cette partie, j'espère simplement que vous commencez en fait un petit peu à percevoir que l'Esprit Saint, c'est pas une espèce de cerise posée sur le gâteau concocté par le Père et le Fils tout au long de la révélation, quoi. La Bible, c'est pas l'histoire du Père sauvant le peuple juif par la mort et la résurrection de son Fils, et ensuite envoyant l'Esprit Saint pour que l'histoire, qui vaut le coup, soit connue, ou que nous, on ait la chance de pouvoir goûter un petit peu de ce qui était le sommet de notre histoire et qui maintenant est passé. En fait, on ne peut pas penser l'action de Dieu sans l'Esprit Saint, et on ne voit jamais d'ailleurs Jésus agir sans l'Esprit Saint. Réciproquement, on n'aurait jamais reçu l'Esprit Saint si Dieu ne l'avait pas envoyé par son Fils. Au point même que on peut dire que probablement que la mission principale de Jésus, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean la dernière chose qu'il fait sur la croix, il remet l'Esprit, et la première chose qu'il fait comme ressuscité, c'est de souffler sur ses apôtres pour leur transmettre l'Esprit Saint. Pire que ça, si j'ose dire, lors de son dernier discours, qui est un peu son testament, Jésus dit, il va jusqu'à dire, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Donc il est en train de nous dire, « Ok, je vous envoie mieux que moi. » C'est quand même classe. L'Esprit Saint, c'est donc une personne clé de notre foi, dont j'aimerais maintenant approfondir avec vous, du coup, le rôle, puisque, ben voilà, s'il est si important, ça vaut le coup de savoir à quoi il sert un peu mieux. Eh bien, en fait, comme pour toute personne, l'Esprit Saint, il a un rôle qui correspond à sa personnalité. Étant donné qu'il est relation du Père et du Fils, son rôle essentiel, c'est de mettre en relation, d'unir, de lier. Par exemple, c'est lui qui lie l'humanité et la divinité lors de l'incarnation du Verbe en Marie. C'est lui qui fait que le Verbe se fait chair, c'est-à-dire qu'il crée cette unité entre le Verbe et cette humanité qu'il a donnée Jésus, Jésus-Christ. Mais aussi, c'est lui qui unit la parole de Dieu et la parole de l'homme dans la Bible, qui fait que la Bible, c'est parole de Dieu, lorsqu'il inspire les Écritures. Il unit aussi les hommes entre eux et au Christ, lorsqu'il façonne l'Église. Mais on peut aussi rajouter à ça une autre dimension qui est liée au fait qu'il est relation, c'est qu'il est aussi dynamisme, élan vers l'autre. C'est pour ça que l'Esprit Saint aussi, quand il rentre en nous, il ne nous laisse pas statiques, il nous envoie toujours en mission. C'est lui le moteur de la mission. Alors reprenons un petit peu tout ça. Pour avoir l'inspiration des Écritures, par exemple, voilà, l'Esprit Saint, c'est celui qui inspire les hommes et leur donne de parler ou d'écrire au nom de Dieu. Mais il faut bien s'entendre sur le sujet. Parce qu'on a tous en tête, je crois, une iconographie qui existe, où on voit Saint Matthieu comme ça, très inspiré, avec une petite colombe qui lui parle dans l'oreille, et il écrit ce qu'on lui raconte. Quoi. En fait, c'est pas ça, l'inspiration. Voilà. Pour comprendre l'inspiration, en fait, il vaut mieux comparer ça avec l'incarnation, qu'on connaît un peu mieux aussi, peut-être. On l'a vu lors de la dernière séance, en Jésus-Christ, l'Esprit Saint, ce n'est pas le logiciel qui anime ou téléguide la marionnette humaine que serait Jésus. Voyez, l'Esprit Saint, il a un rôle beaucoup plus respectueux de l'humanité que ça. L'Esprit Saint, c'est celui qui, en Jésus, unit l'humanité et la divinité sans que l'une ne vienne détruire l'autre ou absorber l'autre. Et il les unit de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour le moindre hiatus, en fait, entre les deux. On ne peut pas les séparer, les distinguer, quoi. Lorsque l'humanité de Jésus agit, sa divinité agit aussi et réciproquement. Et donc, de la même façon, lorsqu'il inspire quelqu'un, c'est bien la personne qui va coucher ses mots sur le papier, mais ces mots, ils seront habités de l'Esprit-Saint. Vous voyez ? De la même façon que Jésus, j'allais dire habité, alors évidemment, dès qu'on parle de l'incarnation avec les mains, c'est toujours, on est proche de l'hérésie, mais voilà, Jésus est habité de l'Esprit-Saint, il s'empêche pas son humanité d'être ce point de contact entre lui et nous. Dans la parole de Dieu, c'est de la même façon, ce sont des mots humains qui sont ce point de contact, qui sont ce qui nous est donné à comprendre, et là-dedans, l'Esprit-Saint se trouve et vient porter ces mots pour qu'il nous fasse découvrir qui est Dieu. Et donc par l'Esprit-Saint, la Bible, vous voyez, elle a vraiment cette double dimension, humaine et divine, un peu comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et à mon sens, c'est cette ressemblance qui fait que tous les deux, la Bible comme Jésus, peuvent être désignés du même nom qui est d'être la parole de Dieu. Je vous l'accorde, ils ne sont pas parole de Dieu tout à fait au même titre, évidemment. Voilà, Jésus ne sort pas un bouquin, c'est pas exactement la même chose, mais le parallèle mérite d'être entendu. Et au passage, c'est ce qui fait aussi que, pour bien comprendre la Bible, lorsque vous la lisez, en fait, c'est toujours bon d'invoquer l'Esprit Saint. Pour dire, en fait, qu'est-ce que tu as voulu dire, toi ? Moi, je comprends bien ce que Isaïe a voulu dire, toi, mais toi, qu'est-ce que tu voulais me dire par la bouche d'Isaïe ? Ensuite, deuxième chose, l'Esprit Saint, c'est donc celui qui forme l'Église. En nous unissant, en nous unissant, la raison principale du fait que Jésus, c'est celui de l'Esprit Saint, pardon, forme l'Église, c'est qu'en fait, il n'y a pas de foi sans lui. Vous avez en tête peut-être ce passage où Jésus demande à ses apôtres, voilà pour vous qui suis-je, etc., etc. Et puis Saint-Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Par exemple, Matthieu 16:16, facile à retenir ça, Matthieu 16:16. À ce moment-là, Jésus lui fait remarquer que c'est super ce qu'il a raconté, mais ça ne vient pas que de lui, en fait. Voilà. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais l'esprit de mon Père. Saint Paul dira même, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12:3. Donc, si vous avez déjà dit Jésus, tu es le Seigneur, eh ben sachez que l'Esprit Saint était là. Voilà, je dis ça pour ceux qui auraient du mal éventuellement à se dire, à le reconnaître. Dans tout acte de foi, c'est l'Esprit Saint qui est là présent et qui nous pousse. Donc, il est ce lien de la foi qui nous unit à Jésus, et c'est lui qui fait le croyant. Et vous l'aurez constaté, comme il n'y a pas un seul croyant, il est le point commun aussi à tous ces croyants. C'est pour ça que si on a le même esprit qui nous pousse dans la foi, qui porte notre foi, si nous est commun à tous les croyants, eh bien en fait, forcément, du coup, notre foi ne peut pas être purement individuelle. Notre foi, elle est faite pour être en lien avec les autres. Parce que l'Esprit Saint, c'est le même entre nous, et il va nous pousser les uns vers les autres. L'Esprit Saint, c'est un lien de communion. Communion avec Jésus, communion avec Dieu le Père, c'est vrai, mais communion entre nous aussi. Et par conséquent, du coup, l'Église, c'est pas juste une collection d'individus, vous voyez, un groupe d'individus rangés les uns à côté des autres, qui rentrent plus ou moins facilement dans les églises parce qu'elles sont plus ou moins grandes, etc. Non, l'Église, c'est une communauté, en fait. C'est pas une collection, c'est une communauté. On peut même aller plus loin encore, c'est plus que ça, l'Église, puisque l'esprit est vie, puisqu'on partage la même vie, et bien en fait, on est plus qu'une communauté, on est un corps. Quand vous avez quelque chose de vivant, ou quand vous avez différents membres qui partagent une même vie, plutôt, ça s'appelle un corps. C'est pour ça, vraiment, j'insiste là-dessus, en fait, on ne peut pas séparer les dimensions individuelles et collectives de notre foi. Ou alors, on ampute quelque chose de notre foi, ou alors, en fait, on n'a pas compris ce que l'Esprit Saint est, comment il nous habite, pourquoi il nous habite, et surtout, peut-être aussi, qu'il habite nos frères. Enfin, dernière chose, je vous ai parlé de la mission. L'Esprit Saint, c'est celui qui envoie en mission. Parce que quand il façonne le monde, en fait, il façonne pas comme un potier des cruches qui permettraient de décorer une maison, on les pose dans un coin et c'est réglé, vous voyez, ou des statues, ou des je sais pas quoi, qui seraient très belles, mais qui seraient posées dans un coin à attendre, quoi. Quand l'Esprit Saint façonne, lorsque l'Esprit Saint agit, il produit toujours un envoi en mission. Vous pourrez, par exemple, reprendre les exemples de l'onction des prophètes et des rois dans l'Ancien Testament, il y a toujours une mission qui est associée à ça, va dire ceci, ou va faire cela, etc. Et par exemple, on peut penser à Isaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le prophète, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux humbles, pardon, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » C'est vrai aussi dans le Nouveau Testament, hein, comme je vous disais, c'est le même Esprit Saint dans l'Ancien et dans le Nouveau. Et lorsque Jésus est baptisé, l'Esprit Saint descend sur lui, et la phrase qui est juste derrière, c'est « Aussitôt l'Esprit Saint » le pousse au désert. Okay, donc, tac, grande tape sur l'épaule, allez, vas-y, mission, go to le désert. Et de la même façon, enfin, à la Pentecôte, les disciples sont tous réunis au Cénacle, l'Esprit Saint descend, et la première chose que les disciples font, c'est sortir, partir, et on a le premier discours de Pierre qui va expliquer voilà, que Jésus est ressuscité, etc., etc. C'est pourquoi, petit détail liturgique, la confirmation, c'est pas le dernier diplôme du chrétien, vous voyez. Ben, c'est le début de sa mission, en fait. Enfin, si on a bien compris ce qu'on a reçu, si on laisse produire ce qu'on a reçu, produire des fruits à ce qu'on a reçu. Bien. Donc, pour terminer cet enseignement, pas trop débordé, maintenant que vous en savez plus sur l'Esprit Saint, voici quelques éléments pour repérer sa présence dans vos vies. Parce que c'est souvent aussi une remarque hein, qu'on a, forcément. On a dit au début de notre séance que on pouvait relire l'Ancien Testament en cherchant les traces de l'Esprit Saint. Parce que Jésus nous a dit qu'il existait, donc on sait qu'il existe, on va le chercher. Très bien. Mais de la même façon, en fait, on peut relire nos vies. Aussi, on se dit, tiens, à quel moment est-ce que l'Esprit Saint était là? Et pour avoir une grille de lecture, prenons simplement dans la Bible les grandes manifestations de l'Esprit Saint. Comment il s'est manifesté à telle ou telle personne? Comment est-ce qu'il est décrit dans la Bible? En s'appuyant donc, par exemple sur ce que racontent les actes des apôtres, les lettres de Paul ou de Pierre, en s'appuyant sur ce qu'on a dit ce soir, peut-être qu'on peut retrouver les fois où l'Esprit Saint était là et où on ne savait pas en fait. Ces fois par exemple où on a osé parler de sa propre foi. Ces moments où peut-être on a eu des moments de foi forts, intenses, des moments de communion aussi, etc., etc. Tout ça, en fait, l'Esprit Saint était là. Et souvent, on se dit qu'il n'était pas là parce qu'on voit qu'il y a un côté humain. Mais en même temps, l'Esprit Saint, il n'agit pas sans l'humanité. Donc forcément, si on cherche un moment où il serait là, ex nihilo, mais que lui, et bien en fait, ça n'existe pas. Voilà, donc forcément, on ne peut pas le trouver à ce moment-là. J'en profite, du coup, pour une page de publicité. Vous avez peut-être entendu parler de Béatrice Trépanier, qui nous a aidé à réaliser ces séances de caté adulte, voilà, qui, pour des raisons personnelles, est obligée de rester chez elle, mais elle a eu ce souci-là de se dire aussi, effectivement, elle a repéré que souvent, on nous dit ça, comment je repère l'Esprit Saint dans ma vie, comment je fais, c'est probablement elle aussi qui a soufflé, je crois, à l'équipe, hein, le coup des pierres lumineuses et des pierres noires que vous aviez fait dans ce caté adulte. Et donc elle a repéré qu'il y a vraiment cette question-là de comment je repère le travail de l'Esprit Saint, et elle était formée à l'accompagnement spirituel, etc. Elle se dit, mais ça vaut le coup peut-être que s'il y en a qui ont envie de progresser là-dessus, de repérer ça, mais moi je suis prête à consacrer, selon ce qui sera nécessaire, une à trois séances avec la personne pour aider à progresser dans la relation personnelle au Seigneur, dans sa vie comme dans sa prière, à le repérer en fait, et à se dire, bah oui, moi je n'ai peut-être pas fait d'expérience foudroyante de la présence de Dieu, mais il est bien là, dans ma vie.